Francis Bergeron, vous publiez Jean-Michel Charlier aux éditions L'Atelier faut le faire. Alors Jean-Michel Charlier, scénariste de bande dessinée, il fait partie du trio des trois grands, c'est-à-dire Goscinny, Hergé et Charlier.
Oui, alors Charlier est le moins connu de ce trio. Goscinny, évidemment, on pense à Astérix, et puis Hergé, on pense à Tintin. Charlier est un pur scénariste. Il a dessiné un petit peu quand il était au début de sa carrière, je dirais, mais lui, il a inventé le métier de scénariste. C'est assez extraordinaire. Jusqu'à Jean-Michel Charlier, les auteurs de bandes dessinées étaient scénaristes en même temps. Ils faisaient le scénario, ils faisaient le dessin, et il n'y avait pas besoin de scénariste parce qu'on s'adressait à des enfants dans des gags, dans des séries très courtes. Donc il fallait une page, à la fin de chaque page, il fallait une chute. Il fallait quelque chose qui relance l'attention, puisque souvent, ces bandes dessinées paraissaient dans des hebdomadaires et l'enfant devait attendre une semaine pour connaître la suite de son histoire. Donc il fallait le laisser sur un suspense et ensuite attendre une semaine. Charlier, lui, il arrive dans cet univers juste après la guerre et il va très vite être identifié comme par ses collègues, dessinateur, scénariste en quelque sorte, il va être identifié comme ayant un talent incroyable pour raconter des histoires. Et peu à peu, ses amis vont lui dire « Écoute, arrête de dessiner parce que tu dessines moyennement, mais par contre, écris pour nous. Écris-nous des scénarios, raconte-nous des histoires. » Et à partir de là, Charlier va travailler pour tous les plus grands dessinateurs de bandes dessinées de France, de Belgique, francophone et donc du monde. Et il va créer, au fil des années, un univers de personnages tout à fait exceptionnel. Je pense par exemple à Blueberry, je pense à La Patrouille des Castors, une histoire de scout, je pense à Tanguy et la Verdure, je pense à Bugdani, je pense à Jacques Le Gall, Michel Dacier, toute une série, et c'était extraordinaire. Barbe Rouge le pirate. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Charlier travaillait simultanément sur plusieurs séries de bandes dessinées. Il pouvait travailler sur une histoire de Barbe Rouge qui se passait à l'époque de Louis XIII, grosso modo, une histoire de Blueberry pendant la guerre de Sécession, une histoire de Michel Dacier aujourd'hui, ou de Jacques Le Gall, une histoire de Patrouille des Castors, donc un univers scout. Enfin, c'était un type qui avait un talent inouï, et il a développé ce talent, et il a créé aussi quelque chose qui aujourd'hui est très important dans l'univers de la bande dessinée. Ce sont des récits de très longue durée, des récits en plusieurs albums, plusieurs épisodes, avec des cycles, ce qu'on appelle des cycles. Alors on voit ça dans les feuilletons télévisés, mais on a aussi ça dans la bande dessinée. Ça contribue beaucoup au succès de certains albums. On pense à 13, on pense à l'Argo Winch, on pense à ces séries-là. Et c'est Charlier qui a inventé ça. Alors Charlier est moins connu que les autres, mais c'est vraiment très injuste, parce que quand on cite justement les personnages qu'il a inventés, ces personnages-là, tout le monde les connaît. Mais c'est vrai qu'on se focalise plus sur le dessinateur que sur le scénariste, c'est-à-dire l'auteur. Or, l'auteur est beaucoup plus important que le dessinateur, en l'occurrence. Goscinny et Charlier, d'abord, ont été amis. Ils ont révélé des talents. Donc, ils ont été eux-mêmes d'immenses talents, mais ils ont aussi révélé des talents de dessinateurs. Ils ont aidé de jeunes dessinateurs à devenir des grands de la bande dessinée, des grands dessinateurs très recherchés, à l'égal de, je dirais, à l'égal de peintres, à l'égal de grands artistes peintres. Ils ont révolutionné un genre, enfin Goscinny a révolutionné le genre de la bande dessinée comique, et l'un et l'autre ont deux niveaux de lecture, la lecture enfant et la lecture adulte, et ça c'est sensationnel, parce que ça fait vivre ces personnages accompagnent le lecteur, ont accompagné le lecteur, en tout cas ceux de ma génération, c'est évident, toute leur vie.
Pour parler d'un de ces personnages, voire certains personnages, mais je pense à Blueberry par exemple, c'est un personnage qui a eu plutôt une double vie, puis une évolution un peu particulière, qui n'a pas forcément plu, je crois, à Jean-Michel Charlier.
C'est son fils, Philippe, qui veille à ce que l'esprit de son père et l'esprit de Blueberry ne soit pas altéré. Alors, certains ont dit que certaines périodes de Blueberry étaient, dans les nouveaux albums, étaient contestables. Non, ce qui a été objet un petit peu de polémique, c'est le film. Le film, et ça je sais que, d'abord c'est pas l'esprit de Charlier, ça c'est sûr, et je crois que la famille n'était pas très heureuse de cette transposition. Et je sais aussi que sa famille, son fils, s'est opposé à ce qu'on fasse de Blueberry, justement, à ce qu'on fasse une série de Blueberry âgé, où Blueberry aurait été séduit par les théories ésotériques ou par ce genre de choses, ce serait drogué ou je ne sais quoi. Donc c'est sur ce plan-là, je dirais qu'au contraire, la famille a été vigilante pour éviter que les personnages deviennent différents, voire opposés aux valeurs que défendait Jean-Michel Charlier. Et ces valeurs, c'était le courage, le patriotisme, le dévouement, les valeurs chrétiennes, en l'occurrence. Et je trouve que ça fait partie du plaisir de ces séries-là.
On parlait de vie, bien sûr, mais Jean-Michel Charlier, lui aussi, était quelque part un aventurier. Il était pilote de ligne. Et d'ailleurs, je crois que le nom de pilote qu'il a fondé avec René Goscinny, eh bien, ce journal, en 1960, vient de lui.
Oui, effectivement. Il avait une double vie, ce Jean-Michel Charlier, une double passion. La passion, il avait fait des études d'avocat, puis finalement, il a abandonné le droit. Mais pour se consacrer à la bande dessinée, mais en particulier à la bande dessinée de l'aviation. Il a dessiné un Mermoz quand il était au tout début de sa carrière, un très joli Mermoz qui est paru dans Spirou. Et ensuite, il a continué à développer sa passion au point qu'il a pris des cours de pilotage. Et puis, il est devenu pilote à la Sabena. Donc, il était pilote en semaine. Et dessinateur de bande dessinée le week-end, ou au contraire, je ne sais plus très bien, mais il avait cette passion et il a fait partager cette passion d'abord à des dessinateurs, et puis comme Hubinon et d'autres, et puis il a piloté beaucoup, il a piloté aussi pour le plaisir, donc il a restauré un vieil avion, un vieux coucou. On dit même qu'il a participé à des épisodes plus guerriers dans le Congo belge de l'époque des mercenaires. Je dirais que c'est tout à son honneur et tout à sa gloire, le fait d'avoir rejoint dans ses modes de vie un certain nombre de valeurs que ses héros défendaient sur le papier.
Il y a eu aussi un épisode, une période de sa vie qui l'a fait finalement écarter, notamment du festival de BD d'Angoulême.
Oui, ça c'est le plus étrange, c'est le plus incroyable. Voilà un auteur qui a eu un succès gigantesque et qui continue à avoir un succès gigantesque. Tous ses albums sont constamment réédités. C'est la vache à lait des éditions Dupuis, c'est la vache à lait de Dargo, enfin de ces séries. Ces albums sont dans toutes les familles. Ces personnages sont connus dans toute la francophonie et bien au-delà. Et pourtant, il a été tricard, si on peut dire, pendant un certain temps, parce que, outre sa passion pour la bande dessinée, sa passion pour le pilotage, il avait aussi une passion pour le cinéma, enfin, ou disons le documentaire. Et il a travaillé pour FR3, enfin la troisième chaîne, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque, et il a fait une série de feuilletons documentaires. C'est-à-dire qu'il a retranscrit par l'image les modes de communication avec ce suspense et cette densité que l'on trouvait dans ses bandes dessinées, dans ses récits. Il les a utilisés pour des documentaires sur un certain nombre de personnages, sur Al Capone, sur Martin Luther King, sur un certain nombre de personnages marquants, Kennedy, etc., avec une enquête, comme un type d'enquête policière. Et ces séries, les dossiers noirs, qui s'appelaient les dossiers noirs, avaient énormément de succès. Et un jour, il a eu le malheur de vouloir faire un dossier noir consacré à Léon de Grelle. Léon de Grelle était un chef politique belge qui s'est engagé pendant la dernière guerre dans les rangs de la Waffen-SS. Donc c'était un Belge, mais qui a choisi la collaboration et qui est devenu une figure emblématique de la collaboration militaire d'un certain nombre de Belges francophones, enfin wallons. Il en est la figure la plus connue. Et en même temps, alors on peut condamner, on peut trouver que c'est scandaleux, qu'il était traître à son pays, tout ce qu'on veut. Surtout que comme on connaît comment s'est terminée l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il est évidemment très simple de dire qu'il y avait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et que lui était dans le camp des méchants. Ça, d'accord. Mais on ne peut pas non plus écarter d'une pichenette le fait que ce personnage de Grelle a eu un destin absolument incroyable, jeune scout belge, puis ensuite travaillant justement au XXe siècle, il a connu Hergé, il a été ami avec Hergé, et puis ensuite devenant jeune chef politique, puis emprisonné, puis libéré, puis s'engageant dans l'armée allemande, puis allant se battre sur le front de l'Est, plusieurs fois blessé, une vie de roman, alors de roman noir si on veut, mais une vie de roman. Et Charlier a raconté cette histoire, il a fait visionner son film par les dirigeants de FR3, tout était bouclé, tout était bien, ça devait passer à la télévision, et puis tout d'un coup, un député communiste français, ayant appris qu'on allait faire ce reportage, a fait interdire par le gouvernement de l'époque la publication de ce reportage. Et à partir de là, Charlier a été placardisé, marginalisé, et ses autres séries, c'est ça le plus stupide, rigolo, absurde de l'histoire, c'est que ses autres documentaires consacrés à Martin Luther King, consacrés à Al Capone ou à Kennedy ont été censurés de la même manière parce que évidemment il avait parlé de la bête immonde sans dire que c'était une bête immonde, et à partir de là toute son œuvre en était altérée en quelque sorte, et à la suite de ça effectivement il n'a pas été reconnu à la hauteur de son talent pendant très très longtemps. Et on a eu un peu la même chose avec Hergé. Hergé a eu une période où il était marginalisé, interdit de... Par exemple, il n'était pas cité dans le quotidien Le Soir de Bruxelles parce qu'il avait publié ses Tintins en bande dessinée dans Le Soir pendant l'occupation. Donc on a eu, un certain nombre d'auteurs de bande dessinée, on a eu des espèces de d'oukases absolument absurde. Je pense aussi à Jigé qui a été emprisonné parce qu'il avait publié dans l'équivalent du Pèlerin belge, je dirais, des bandes dessinées, mais pendant l'occupation, sous occupation allemande.
Merci Francis Bergeron. Je rappelle le titre de votre livre, La fabuleuse histoire du plus grand scénariste de BD de tous les temps, Jean-Michel Charlier, et c'est publié aux éditions Atelier Faut le faire.